Bonjour, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Rodez. Alors, pourrait-on ne pas associer le Marocain et son cheval ou à son cheval? Bien sûr, tous n'en possèdent pas. Acquérir un cheval coûte cher, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Pourtant, le symbole que ce bel animal représente est ancré dans le cœur de pratiquement tous les Marocains. Et nous avons intitulé cette émission « Le cheval au Maroc ».
Alors Michel, aujourd'hui nous allons donc passer de l'autre côté de la Méditerranée. Comme tu l'as rappelé, l'histoire de ce pays est fortement liée à celle du cheval. D'origine berbère, les Marocains, comme les autres peuples du Maghreb, ont participé à la conquête arabe qui les a menés jusqu'à Poitiers.
Conquête arabe où ils furent arrêtés en 732 par Charles Martel, si mes souvenirs sont justes.
Alors ils montent depuis toujours le cheval barbe, puis ont également adopté le cheval arabe, deux races de chevaux endurants qui peuvent résister au climat aride et sec du désert.
Alors le cheptel marocain est-il important en fait?
Oui Michel, aujourd'hui il y a 100 000 chevaux au Maroc, toutes races confondues, dont les principales sont élevées dans les haras royaux, sont le barbe, l'arabe, l'arabe barbe, le pur sang anglais et l'anglo-arabe. Et puis il y a énormément de haras privés.
D'accord. Alors, spontanément, quand même, le barbe reste le cheval emblématique d'Afrique du Nord.
Oui, c'est le symbole des origines berbères du pays. Alors, un petit rappel, Michel, les berbères se sont implantés depuis longtemps en Afrique du Nord, mais au VIe siècle, on distingue quatre peuples parmi eux. Les Numides, qui occupent l'est et le centre d'Alger à Tripoli, ce sont de très grands cavaliers. Ils montaient à cru avec juste un lien à la base de l'encolure et avaient suscité l'admiration des Romains qui les avaient intégrés à leur cavalerie. À l'ouest, dans une partie qui s'étend du Maroc à la Mauritanie, nous trouvons les Maures. Et des montagnes de l'Atlas au Sahara, les Gétules. Et enfin, du Sahara au Sahel et au sud de la Libye, les Garamantes.
Alors on voit tous ces noms de tribus, effectivement, dans les vieux textes grecs en particulier, ou égyptiens aussi, qui connaissaient un petit peu ce qui s'y passait. Voilà.
Alors ces peuples commerçaient, notamment avec les Phéniciens, pour ceux qui étaient au bord de la mer, mais aussi avec les caravaniers et avec l'Égypte. Et ça c'est important parce que c'est probablement par ce biais-là que les chevaux sont entrés en Afrique du Nord.
C'est ça. Donc on voit vraiment de nombreux déplacements en quelque sorte, donc qui induit aussi des mélanges, j'imagine. Alors vous êtes sur CFM et vous écoutez les messagers du cheval. Alors en plus des échanges commerciaux, les guerres furent également responsables de vastes mouvements de population.
Donc oui, en effet Michel, comme ce sont des grands cavaliers, les Numides et les Maures, ils nous ont notamment servi, les Numides on a vu dans l'armée romaine, et les Maures dans toutes les armées, c'était des mercenaires. Et on en a un exemple célèbre dans la littérature, puisqu'il s'agit de Othello, hein, le héros de la pièce de Shakespeare du même nom.
Et qui a été effectivement...
Il était général.
Qui a été effectivement l'histoire d'Othello et de Desdémone, enfin ce meurtre affreux, le meurtre de la jalousie en quelque sorte, a été écrit, cet opéra a été écrit par Verdi.
Mais à l'origine c'est la pièce.
La pièce Shakespeare, bien sûr, mais voilà. Donc ce qui veut dire que c'est un thème qui a intéressé beaucoup d'artistes, voilà, à commencer bien sûr par Shakespeare. Alors, notre compagnonnage avec les chevaux barbes est très ancien finalement.
Oui Michel, puisqu'il remonte à 4000 ans avant notre ère. C'est à cette date que on peut dire que le barbe est apparu en Afrique du Nord. Nous en avons des exemples, notamment sur des peintures rupestres, hein, dans des grottes. Et donc, c'est l'Afrique du Nord et son lieu de prédilection. Donc c'est le compagnon traditionnel des nomades et des éleveurs de l'Atlas et des hauts plateaux. On trouve son nom mentionné il y a plus de 2000 ans dans les écrits des Romains, qui l'appellent le cheval de Barbarie. Son influence sur les races chevalines sont immenses, on l'a déjà évoqué dans d'autres émissions, puisqu'il est à l'origine des chevaux ibériques, des mustangs américains et même du pur sang anglais, avec l'étalon Godolphin Arabian, qui n'est pas Arabian mais qui est barbe, et qui était originaire de Tunisie.
Alors la présence française en Afrique du Nord a également eu un certain impact.
Oui, Michel, car rappelons-le, de 1912 à 1956, le Maroc a été un protectorat français, tout en conservant son souverain d'origine alaouite, hein, qui c'est toujours la famille régnante à ce jour. Alors, en quoi la présence française a-t-elle été importante pour les chevaux? C'est-à-dire qu'elle a contribué à organiser, hein, par le biais de l'armée, la production de chevaux orientés vers la remonte militaire. Par ailleurs, le barbe est utilisé dans bien des domaines sportifs, hein, depuis le saut d'obstacle jusqu'à la dbourrida, hein, dont nous vous parlerons tout à l'heure. Et il est présent dans toutes les fêtes et cérémonies nationales et privées.
Alors on parle d'une morphologie du cheval barbe. Ne devrait-on pas dire qu'il y a en fait peut-être plusieurs morphologies, ils ne sont pas tous sortis du même moule.
Oui, tu as raison Michel, parce que le barbe a évolué en fonction du lieu où il vit. Donc on dira qu'il est plus typé arabe dans les territoires au bord de la mer, hein, du littoral. Il est plus rustique dans l'Atlas, puisque l'Atlas, son point culminant est 4000 mètres. Hein. Il est grand dans les plaines et plus ramassé dans les montagnes, où il est célèbre pour son pied très sûr. Quant aux barbes des hauts plateaux, il se situe entre les deux.
Alors, nous allons nous accorder un peu de musique avec Mamboud Halla de Hassan Akmoun. Pardon à ce monsieur si j'écorche son nom. Adam Rudolph. Et c'est un chant de tradition du Gnawa d'Afrique du Nord, le Gnawa qui était des gens qui avaient été faits prisonniers, volés, raptés par les Arabes et qui s'étaient spécialisés dans le travail du fer.
Yeah.
Venu avec les conquérants arabes en Afrique du Nord, le cheval y a fait souche.
Le cheval arabe, Michel, effectivement. Donc, il a été élevé donc dans les grands haras nationaux et privés, hein, qu'il élève toujours d'ailleurs, aux côtés du cheval barbe. Hein. Dans tous les haras, enfin pratiquement tous les haras, on trouve les deux races. Hein. Et donc, les deux, effectivement, participent à des concours de modèles et allures. Et puis l'arabe, lui, est très populaire au Maroc pour les courses hippiques. Alors, comme je viens juste de le mentionner, donc il y a des concours d'élevage et qui ont lieu notamment dans les haras nationaux de Meknès, Bouznika, Marrakech. Il y a 5 haras nationaux, ces 3-ci et ceux de El Jadida et Doujda. Alors, très rapidement, je vais vous parler de ces haras. Donc, Bouznika a été construit en 1994 et réaménagé en 2015. On y élève essentiellement des chevaux de course, pur sang arabe et pur sang anglais, et des barbes et arabes barbes. Il y a 25 étalons.
Je fais juste une petite parenthèse pour nos auditrices et nos auditeurs. Bouznika, en fait, se trouve sur la côte atlantique du Maroc, enfin pas très loin de la côte. Et si je peux parler de moi-même très rapidement, c'était le lieu où, avec mes parents et leurs amis, on allait faire un pique-nique le dimanche, à Bouznika.
Alors, à Bouznika, on y trouve également le Centre National d'Insémination Artificielle pour tout le Maroc. Second hara, celui d'El Jadida, il a été créé en 1913, d'origine militaire. Hein. Il est aujourd'hui géré par la SOREC, nous en parlerons un peu plus tard, et qu'il a développé. Et on y trouve les mêmes races qu'à Bouznika, mais un nombre d'étalons plus important, puisqu'il est de 72. Le hara de Meknès est le plus ancien des haras nationaux, puisqu'il a été créé en 1912. Sa jumenterie à barbe et ses chevaux barbe et arabes sont extrêmement appréciés. Il y a 78 étalons.
Alors, celui de Marrakech?
Alors, celui de Marrakech date de 1913. On y élève des barbes et arabes barbes. Il y a 55 étalons. Comme le hara Doujda, hein, qui élève des barbes et arabes barbes et qui compte 53 étalons.
Alors, deux exigences président à ces installations, c'est celle de développer et de protéger. Protéger est important, je pense.
Tout à fait. Alors, j'ai mentionné la SOREC, hein. Il s'agit de la Société Royale d'Encouragement du Cheval, qui a été créée en 2003, justement, dans le but de développer et protéger les chevaux au Maroc. Alors, elle s'occupe de l'encadrement de l'élevage, de l'amélioration de la race chevaline dans les haras nationaux, de l'organisation des courses hippiques dans les hippodromes, de la gestion des jeux hippiques et de la création et exploitation des infrastructures hippiques.
Alors, il y a aussi un programme intéressant de création de nouveaux hippodromes, donc qui sont répartis un peu dans les villes, les différentes villes du pays.
Alors, les hippodromes existent depuis longtemps, hein,
oui,
au Maroc.
Mais là, il y a un coup de fouet.
Mais donc, notamment, donc les plus anciens sont ceux de Casablanca, Rabat, El Jadida, Settat, Meknès et Kémisset. Mais tout à fait récemment, puisque c'était la semaine dernière, hein, l'hippodrome de Marrakech a été inauguré afin de donner une nouvelle dynamique aux courses dans cette partie du Maroc.
Alors, tout cela a pu se mettre en place grâce à une politique déterminée du développement de l'élevage et des sports équestres par la famille royale marocaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de développer ce secteur-là du sport.
Tout à fait, Michel. Le cheval est très, très important pour eux. Le roi est à cheval pour son couronnement et toutes les fêtes du trône. Feu Hassan II et sa sœur Lala Amina, aujourd'hui disparu, ainsi que le roi actuel Mohamed VI, hein, ont encouragé les levages du cheval barbe et arabe. Donc son utilisation nécessaire à sa conservation, notamment dans l'armée, la police et la garde royale. Alors la princesse Lala Amina a été entre autres entraîneur national de l'équipe marocaine de saut d'obstacle. Pour l'anecdote, on a un exemple de l'engagement de la famille royale, notamment à travers l'histoire du cavalier de saut d'obstacle Abdelkebir Ouadar, qui est devenu cavalier grâce à Lala Amina. Cet enfant d'origine modeste avait été élevé par une sœur d'Hassan II et qui l'a mis au cheval. Et la princesse Lala Amina a vu qu'il avait des qualités, de vraies qualités de cavalier. Et donc, elle a décidé de l'envoyer en stage chez Nelson Pessoa, le célèbre cavalier de saut d'obstacle. Hein, cavalier
portugais, oui.
Portugais. Brésilien.
Pardon.
Et donc, où il se met au saut d'obstacle à l'âge de 14 ans. Et c'est le roi Mohamed VI qui lui achètera son cheval de grand prix, Quickly de Kreisker, qui a été numéro 1 mondial en 2014 et 2015, un cheval qui lui permettra de remporter l'année dernière le grand prix du saut Hermès.
D'accord, oui. C'est vrai que les souverains du Maroc se sont beaucoup investis et il y a une continuité qui est intéressante. Alors si nous faisions maintenant un saut dans le passé pour retrouver une équitation plus ancestrale, mais toujours aussi populaire aujourd'hui, comme la Tbourida, plus connue sous le nom de Fantasia.
Voilà, nous on dit Fantasia, mais au Maroc ça s'appelle Tbourida.
Absolument.
Alors Tbourida vient du mot baroud qui signifie poudre à canon. C'est un art équestre ancien qui date du XVe siècle et qui est également pratiqué en Algérie et en Tunisie. Sa forme, avec l'utilisation du fusil,
le fameux,
date du XVIe siècle. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, refaire un assaut militaire effectué par des guerriers arabes et berbères. Donc la Tbourida est souvent associée au Moussem. Hein,
alors un petit mot pour le Moussem, ce sont des rassemblements de tribus. La fête d'un saint ou n'importe quelle autre raison se réunissent donc et créent une espèce de grande manifestation ensemble, le Moussem.
Voilà, donc et ainsi qu'aux fêtes nationales et familiales.
Absolument, oui.
Alors, une épreuve de Tbourida se divise en deux parties, la Hada qui signifie le salut, qui permet d'admirer la tenue des cavaliers, l'harnachement des chevaux et le maniement des fusils, et la Talga, qui est la course. 11 à 15 cavaliers forment une troupe de Tbourida, cela s'appelle une sorba. Et autrefois, Michel, il y a pu avoir plus de 100 cavaliers dans une seule sorba.
Ah oui. Ah ouais, moi, j'ai assisté à des manifestations où on avait tous les douars qui descendaient. Hein. Je veux dire, c'était énorme le nombre de gens.
Alors, elle est présidée par le Mokadem qui se place au centre de la troupe. C'est lui qui va coordonner les cavaliers. Ceux-ci sont placés en ligne face à une piste de 150 à 200 mètres de long. Après une reconnaissance au pas, ils reviennent sur la ligne de départ. Alors, le Mokadem se met à de mettre la détente du fusil en position de tir, puis de diriger les fusils vers le ciel. Donc ça, c'est le deuxième cri. Et le troisième cri, c'est « chevaux ». À ce moment-là, les cavaliers partent au galop en tenant les rênes dans la main gauche, puis ils les font passer dans la main droite qui tient le fusil. Et quand vient l'ordre « Siadi », qui veut dire « messieurs »,
Siadi, oui.
ils se dressent sur leurs étriers, lâchent la bride, saisissent le fusil à deux mains et tirent avant de s'arrêter brusquement. Alors les équipes sont sujets sur un certain nombre de critères, l'alignement, la qualité du départ, la tenue des cavaliers, l'harnachement des chevaux, l'art dans l'exécution du jeu du fusil. Alors, il faut rappeler à Michel que c'est un beau fusil en bois ciselé d'argent.
Oui, qui a en fait été pris sur le modèle des mousquets italiens, en fait. Et il y a même quelque chose d'assez extraordinaire où le fusil, certains cavaliers le jettent en l'air et le rattrapent comme cela, comme ils peuvent, et ce qui est assez spectaculaire.
Les deux derniers critères sont la précision et la synchronisation des détonations. Donc, pour tous ceux qui l'ont vu, c'est un spectacle absolument magnifique. Il y a beaucoup d'émotions et d'excitation autour du terrain, car naturellement, chacun a son équipe favorite.
Absolument. Vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Messagers du Cheval. Alors, les cavaliers revêtent-ils des habits particuliers pour participer à une Tbourida?
Oui, c'est très important, Michel. Comme on l'a dit, ça fait partie également des critères sur lesquels ils vont être jugés. Alors, ils portent des caftans, simples ou brodés, des serwals, qui sont des pantalons traditionnels.
Très amples.
Des selams, qui sont de grandes capes en laine. Des rezas, des turbans enroulés sur la tête. Des tmags, qui sont des bottes équestres traditionnelles, en cuir. Le Dali al-Khairat, je ne sais pas comment le prononcer, c'est un Coran qui est contenu dans un petit sac.
Et Khairat.
Voilà. Et le Khanjer, je ne sais pas non plus comment le prononcer, qui est un poignard contenu dans un fourreau. Tous ces cavaliers sont très fiers de leur tenue.
Ah oui,
très, très fiers
oui,
de leur tenue. Elles sont colorées, il y a du rose, il y a du bleu. Et juste une petite précision, il y a des cavaliers qui sont les cavaliers du désert, qui eux portent des grands caftans bleus. Et ceux-là, Michel, tirent vers le bas. C'est les seuls qui sont autorisés à tirer vers le bas pour la bonne et simple raison que dans le désert, quand on veut échapper à la vue de ses poursuivants, eh bien on tire vers le bas, ce qui crée des nuages de sable et de permet aux cavaliers de disparaître.
De s'évanouir, voilà. La popularité de ces émissions reste très forte au Maroc, hein, ça n'a pas du tout décliné. Et je crois qu'un certain nombre de chiffres sont assez éloquents sur ce sujet.
Oui, les chiffres de la SOREC que nous donne la SOREC en 2014 nous dit qu'il y a 5433 cavaliers et 5014 chevaux qui ont participé à des bourridas cette année-là. Les concours ont lieu toute l'année avec la finale à Dar es Salaam pour le trophée Hassan II. Et enfin, Michel, pour conclure cette émission, nous allons laisser la parole au roi Mohamed VI, hein, parce qu'il a dit des choses très très belles et qui traduisent bien l'engagement de son pays vis-à-vis des chevaux. Fortement présent dans notre patrimoine artistique littéraire, le cheval confère beauté esthétique à nos fêtes religieuses et nationales et à nos festivités familiales. Tant et si bien que certains sultans du Maroc ont fait du dos de leur cheval leur trône de prédilection, donnant ainsi la plus belle illustration des cimes auxquelles le Marocain a hissé le statut du cheval.
Comme en quelques mots, Mohamed VI a su faire un résumé extraordinaire de cette grand rendez-vous avec les chevaux, traditionnel grand rendez-vous avec les chevaux. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Radio 107.9. Merci Virginie de nous avoir ouvert les portes du Maroc dans ce voyage passionnant dans lequel tu as su nous guider. Ce pays ami où se mêlent les traditions les plus solides associées à une forte modernité. Le Maroc est très moderne aussi. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à tous les chevaux. Ciao, ciao.